Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Je me considère comme un rien, si incapable de toute vertu. Mais il me semble que le Seigneur veut que je laisse tout ce néant se perdre en lui et qu'il vive en moi. Pendant un moment, j'ai eu une sorte d'attirance juste pour continuer à aimer et à adorer le Seigneur que je ressens dans les replis les plus profonds de mon âme, aussi obscure et cachée soit-elle. C'est un extrait, une citation de Sainte Maravillas de Jésus, contemporaine, décédée en 1974. Et c'est avec vous, et je vous salue très fort, Éric de Russe, que nous découvrons cette figure carmélitaine.
Oui. Oui,
d'une grande profondeur.
D'une immense profondeur, difficile à aborder, il faut le dire. Ces écrits spirituels, on en reparlera, sont à certains égards déroutants. Mais le parfum laissé par sa vie, les œuvres, la personnalité, les témoignages fort attachants méritent.
La sérénité,
cette joie.
Cette bonté aussi.
Oui, ouais. Cette bonté, elle était très accessible à
très
toutes les formes.
Très aimée de toutes ses sœurs.
Vraiment, ouais. Vraiment. On le verra même des personnes pendant la guerre d'Espagne, des personnes communistes qui ont persécuté des Carmels, etc., ont été très impressionnées dans la rencontre avec Mère Maravillas. Donc quelque chose l'a dépassé, l'a traversé. Voilà. Mais ses écrits, il est vrai, sont déroutants. Nous allons le voir. Et cette alternance de lumière et de nuit que vous avez indiquée.
Et on y reviendra.
Oui.
On revient un peu sur ses débuts de jeune carmélite et de jeune postulante. C'est les débuts pour elle.
Oui, c'est les débuts. Et elle ne cache pas qu'elle était très sensible aux louanges à cette époque. Et elle était tellement, vous l'avez fait remarquer, douée. Elle possédait tant de talents qu'elle était souvent louée. Et elle raconte, alors qu'on l'a louée au parloir, elle entendit une parole intérieure. Le Seigneur lui disant « Et moi, on m'a pris pour un fou. Et moi, on m'a pris pour un fou. » Et elle dit que c'est cette parole qui l'a libérée. Elle dira plus tard « Je retrouvais la liberté tant demandée, me laissant depuis complètement indifférente au jugement des hommes. » À partir de ce moment-là, mes vains désirs se transformèrent en celui d'être méprisée, c'est-à-dire compter pour rien. Dieu l'a libérée de ce mensonge, dit-elle. Le mensonge de l'idolâtrie, elle en parle comme d'un mensonge, c'est-à-dire prendre la place de Dieu, recevoir les louanges comme si elles nous étaient adressées, plutôt que d'avoir conscience qu'elles sont toujours adressées à plus grand que nous, puisque finalement elle était très consciente que si à travers elle pouvait passer beaucoup de choses, en elle-même, elle n'était pas quelque chose de grand ni de louable. Elle en avait très conscience.
Au fond, elle comprenait avec cette intelligence, cette finesse, qu'elle ne devait pas prendre la place de Dieu.
Elle ne devait pas se prendre
pour le sauveur.
Exactement. Elle ne devait pas prendre. Elle était créature et non pas créateur. Elle était serviteur et non pas maître. Elle était venue au Carmel pour servir et non pour être servie, pour aimer et non pour être aimée. Et c'est cet oubli d'elle-même qui est l'une des notes caractéristiques de Mère Maravillas, mais un oubli qui n'est pas dépréciation de soi, un oubli qui accomplit. Elle trouvera dans cet oubli, elle va se perdre dans plus grand qu'elle-même, elle va communier à une source d'amour tellement grande qu'elle va pouvoir devenir comme un canal.
Au fond, elle s'oublie pour un plus grand amour.
Ah oui, elle parlera beaucoup, elle demandera à ses sœurs, plus tard quand elle sera maîtresse des novices, de s'oublier pour faire plaisir aux autres, pour contenter les autres, pour consoler, on va le voir, le cœur de Jésus. Donc c'est une...
C'est une obsession aussi.
Oui, parce
être
que...
consolatrice.
Oui, parce que ça correspond à une demande que le Seigneur lui adressera. Donc il faut se replacer dans le contexte, si vous voulez, en mai 1919, l'Espagne a été consacrée au Sacré-Cœur de Jésus par le roi Alphonse XIII. Sur une colline près de Madrid, il y avait un ermitage à la Vierge des Anges, et c'est là qu'un monument est érigé au Sacré-Cœur de Jésus. Monument assez vite, cependant, laissé quelque peu à l'abandon. Et en juin 1923, donc quelques années après cette consécration de l'Espagne, Maravillas reçoit une inspiration intérieure à fonder un couvent qui serait comme une veille d'amour pour le Sacré-Cœur. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est qu'un an après sa mort, en 1975, qu'on a retrouvé un billet dans des archives où on a su, où elle avait écrit ce que Jésus lui avait dit, et car jusqu'alors les sœurs n'obtenaient jamais de précision, comment avez-vous fondé, comment en êtes-vous venue à fonder ce couvent, et elle restait très évasive, elle riait, mais... Et sur ce billet, on lit « Ici, je veux que toi et ces autres âmes choisies, par mon cœur, me fassiez une maison dans laquelle j'aurai mes délices. Mon cœur a besoin d'être consolé. Je veux que ce Carmel soit le baume versé sur mes blessures ouvertes par les pécheurs. » Donc là, il y a un secret qui va porter toute sa vie et on voit qu'elle est quand même dans une période où elle reçoit d'abondantes grâces intérieures, des lumières, avant d'entrer, on va le voir dans cette alternance de lumière et de nuit, mais des lumières qui vont être fondatrices. Dieu fait ce qu'il dit.
Donc des lumières fondatrices,
oui.
Des lumières qui vont être fécondes et maternelles.
Fécondes et maternelles, en effet, et confirmées aussi par les événements, parce que quand elle s'ouvre à sa prière de cette inspiration, en fait, on s'aperçoit que la seconde, si vous voulez, de la prieure, sœur Rosario de Jésus, qui est la sous-prieure, elle reçoit la même inspiration dans le Carmel de l'Escorial. Et donc c'est très troublant pour la prieure de voir qu'elles sont au moins deux à avoir reçu cette inspiration. Des prêtres sont consultés, un jésuite comme le père Torres, enfin des personnes tout à fait fiables, qui vont confirmer, l'évêque aussi confirme, et donc elle va pouvoir fonder ce Carmel, comme Jésus le lui avait demandé. Et c'est en 1924, le 19 mai, que quatre religieuses s'établirent dans une petite maison pour suivre les travaux. Elle n'a pas encore fait sa profession solennelle, qu'elle fait le 30 mai 1924, et elles aménagent en 1926 sur cette colline, et elle sera nommée prieur par l'évêque. Et c'est quand même une charge.
C'est sa grande épreuve.
Sa grande épreuve.
Car elle fut prieur toute sa vie.
Mais jusqu'à sa mort. Alors que elle...
Ce fut son épreuve.
Ah mais vraiment. Ouais. Et combien de lettres nous trouvons, où nous lisons, où elle écrit à son père spirituel. Mais c'est une calamité pour la communauté, tellement elle se considère comme impropre à cette fonction. Mais elle devra y consentir humblement. Voilà. Et donc, elle est aussi chargée de la formation des novices. Elle éduque, disent les sœurs, par l'exemple, vraiment à l'idéal du Carmel. Hein. L'exemple, l'humilité, le don de soi, la charité. Elle revient à ce que l'on trouve dans le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Hein. Voilà. Et puis, c'est un contexte, il faut le rappeler, l'histoire de Maravilla, sa vie spirituelle est liée au contexte historique. Autour des années 31, c'est un contexte de grand anticléricalisme qui conduira à la proclamation de la République. Et certains couvents sont pris d'assaut, les lois anticléricales sont promulguées. Et en 31, l'évêque va ordonner aux carmélites de quitter, parce que c'est trop dangereux, le couvent. Alors, Mère Maravilla s'obtient de rester dans une maison des chapelains, près de ce monument, et puis la guerre civile éclate, 18 juillet 1936, le monument va être abîmé, détruit, et les carmélites doivent partir à Madrid. On sait qu'elles vivront un temps dans un petit appartement,
oui.
Menant une vie régulière, mais dans des conditions héroïques, un appartement qui appartenait à la famille d'une sœur, et pendant 13 mois, elles vont mener une vie carmélitaine dans un très grand dénuement. Et c'est dans ce contexte qu'un chef milicien l'interrogera, le pistolet au poing. Et fut tellement impressionné par la sérénité de cette sœur que, il évitera de lui nuire et il demandera de ne pas lui faire de mal, ainsi qu'à sa communauté. Donc, déjà un héroïsme, quand même une pratique héroïque des vertus.
Une femme pour notre temps, au fond, quand on écoute
forte,
hein, et que vous relatez un peu ces épisodes de ce début de vie, c'est pour aujourd'hui, Maravillas.
Mais c'est pour aujourd'hui, parce qu'elle est au cœur d'un combat spirituel. Elle a une manière de vivre spirituellement la réalité historique de son temps en y déchiffrant au cœur de ces événements historiques très douloureux, hein, comme par ailleurs les nôtres le sont à certains égards. Elle y déchiffre un sens spirituel. Vous voyez, consoler le cœur de Dieu qui a tant aimé les hommes, ce cœur de Dieu qui est oublié, qui est méprisé, donc ce souci du salut, des âmes tellement, bien sûr, au cœur de la vocation de la carmélite, souffrir, s'offrir, aimer, pour sauver les âmes, pour réparer.
Il y avait cette obsession aussi chez Sainte Maravillas, et c'est bien, vous en parlez, de réparation.
Oui,
de réparation alors, et de sauver les âmes.
Sauver les âmes, par l'amour, hein, car c'est l'amour qui répare, mais réparer veut dire aussi prendre part à l'obscurité, aux ténèbres, à tous les fruits du péché, sans être elle-même complaisante à l'égard du péché, mais elle va être associée au péché du monde, au péché de son temps, et elle va le vivre, on va dire, dans son âme, dans sa chair. Elle va verser le sang de son âme
En toute liberté.
En toute liberté.
Parce que c'est une femme qui est libérée.
Mais elle le disait, hein, voilà, dès cette grâce qui l'a libérée, ça aussi c'est un fruit de la grâce. Mais cette liberté, elle va la mettre au service d'un plus grand amour, parce que la question est toujours la même pour celui qui prend conscience qu'il est libre. Qu'est-ce que je fais de ma liberté? Et Mère Maravillas va offrir sa liberté, ce qui est le plus haut acte de la liberté. Elle va offrir sa liberté à l'amour et elle va porter du fruit.
Sainte Maravillas était toute donnée, était une véritable épouse.
Oui. Ouais.
On la retrouve dès demain dans Des clés pour vivre et bien sûr avec vous, Éric de Rus.
Merci. Demain. À demain.
Et merci.